D'habitude, j'aime apporter des messages qui tournent, enfin qui sont centrés sur un texte en particulier. Mais ce matin, alors peut-être parce que c'est l'été, je vais m'essayer à quelque chose d'un peu plus léger. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler d'un sujet qui est pas si léger que ça, mais sur lequel il me reprend. Parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne suis pas parfait. Et le Seigneur a besoin de me reprendre souvent. Et le sujet sur lequel j'avais envie de vous parler ce matin, c'est celui de la colère. Alors vous, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais donc avec Sandrine, on a 4 enfants, on a 4 garçons. Et chez nous, je peux vous l'assurer, parfois il y a de la colère. Parfois il y a des cris, parfois il y a des disputes, des engueulades, ce genre de choses. Et en tant que père, je sais que j'ai la responsabilité d'éduquer mes enfants, de leur enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Et parfois ça se fait avec des cris, parfois ça se fait aussi avec des fessées, ça arrive. Et pourtant, dans mon cœur, j'ai souvent ce passage qui revient. Ce verset qui dit « Ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » C'est un passage qui revient souvent dans mes pensées parce que justement je me rends compte que parfois ma colère peut être justifiée et parfois elle ne l'est pas. Et le Seigneur me reprend et ce matin j'avais envie de partager avec vous eh bien, le passage dont il est question ici, d'autres passages aussi qui se rapportent à la colère, et puis qu'on puisse progresser ensemble sur ce que le Seigneur attend de nous et ce qu'il veut nous montrer pour finalement notre vie de tous les jours. Donc le verset que je vous ai cité, en fait, est tiré de l'épître de Jacques, au chapitre 1. Alors, je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Donc, Jacques parle de Dieu. Il dit « Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle seule a le pouvoir de vous sauver. » Je vais lire un autre passage. Cette fois-ci dans l'Épître aux Éphésiens, où là c'est Paul qui nous parle de la vie dans l'amour. Je vais lire à partir du verset 26 et 27. Donc Paul nous dit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Et je lis encore un peu plus loin, au verset 31. « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La première chose qu'on peut constater en lisant ces passages, c'est que le message semble un peu contradictoire. D'une part, il est dit « faites disparaître l'amertume, l'irritation, la colère ». Donc le verset que je vous ai cité, ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et en même temps, ces passages-là nous disent « ne vous hâtez pas de parler, ne vous hâtez pas de vous mettre en colère ». L'autre passage, dans Éphésiens, dit « mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Donc on voit que la colère est en même temps une certaine forme de colère, du moins, alors je vais le dire comme ça, mais est interdite et quelque chose à éviter à tout prix. Une autre forme de colère, elle, eh bien, ces textes nous disent qu'elle est, qu'elle doit être maîtrisée. Alors ça demande à, quand même à essayer de comprendre un peu de quoi il est question, de quelle colère il est parlé, dans quel contexte elle peut s'exprimer, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle produit, et c'est ce qu'on va essayer de réfléchir là-dessus ensemble ce matin. Le premier aspect de la colère qu'on peut aborder, c'est disons l'aspect le plus primitif, le plus basique. Il y a d'abord un aspect, on va dire, biologique, émotionnel, ressenti. La colère, ce que ça produit en nous, hein, c'est une montée d'adrénaline, hein, l'augmentation du rythme cardiaque. En gros, physiquement, ça consiste à se préparer à une agression, se préparer à attaquer. C'est un mécanisme qui remonte très loin à la défense et à l'attaque. Les animaux se mettent en colère. L'exemple qui m'est venu le premier en pensant à la colère, c'est aux gorilles. Je pense que vous avez tous déjà vu, alors soit des images, soit des dessins animés ou des bandes dessinées, où on voit un gorille qui s'énerve et qui se met à arracher un arbre, à taper par terre avec ses poings, à taper par terre, à faire beaucoup de bruit. Il se met en colère. Il le manifeste d'une façon très bruyante et visible. A priori, il le fait face à un de ses congénères, la plupart du temps. Et il exprime une menace. Il est en train de dire à celui qui est en face de lui, fais attention, tu as fait quelque chose qui m'agresse, et moi je m'apprête alors éventuellement à te rentrer dedans. Donc c'est un message très primal, très premier, si tu continues, je vais t'agresser. Je me prépare, je me mets en condition pour ça, je m'énerve suffisamment pour que mon corps soit prêt à la bataille, et je t'exprime que, là maintenant, je vais t'agresser, ou je vais répondre à ton agression. C'est un message. La colère, c'est un ressenti intérieur, et c'est un message que l'on transmet à celui qui est en face de soi, et on exprime qu'une limite a été franchie. Pour le gorille, c'est « tu viens me piquer mes bananes, c'est mes bananes, c'est ma limite, si tu la franchis encore, je vais te donner des coups de poing, a priori. » Une limite. Pour les êtres humains, c'est un petit peu la même chose. Et alors, en réfléchissant à une colère célèbre, j'ai pensé à Zidane, et à son coup de tête. Je pense que vous vous rappelez tous de cet épisode. Hein, on a tous en mémoire la Coupe du Monde. Hein, c'était contre l'Italie. Alors c'était en... Je ne sais plus. Bon. Voilà. Bon. Alors on sait maintenant ce qui s'est passé, d'accord. Donc Materazzi, l'Italien, a insulté la famille de Zidane. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il lui a dit sur sa mère ou sa sœur. Je sais plus. Bon. Il a franchi une limite. Pour Zidane, c'était « Ok, on n'insulte pas ma famille. » Bon, la limite a été franchie, alors Zidane, il n'a pas fait comme le gorille, il n'a pas tapé par terre, il a directement mis un coup de tête. Il a exprimé sa colère en montrant que, voilà, une limite avait été franchie pour lui. C'est un message. Bon. En l'occurrence, la Zidane a payé cher sa façon d'exprimer sa colère, mais c'est une façon de communiquer qu'une limite qui vous est propre a été franchie. C'est comme ça qu'on l'utilise à la fois dans le monde animal et dans le monde humain. Et je me suis, à partir de là, je me suis dit, bon, mais est-ce qu'on a d'autres exemples de colère dans la Bible? Alors, je ne me suis pas forcément intéressé à l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, le Christ lui-même manifeste, dans certaines occasions, manifeste, alors sa colère, alors c'est pas forcément exprimé de cette façon-là, on va le voir dans les passages que je vais lire, mais le Christ manifeste aussi ce qui s'apparente à une limite a été franchie. Alors je vais lire, je vais le lire dans ma version. Je vais commencer par lire un passage dans Marc au chapitre 3, les versets 4 et 5. Alors, le contexte, hein, Jésus est dans une synagogue, c'est le jour du sabbat, et il y a un homme qui est infirme et qui est devant lui. Donc, je lis à partir du verset 3, juste avant. Jésus dit à l'homme, à la main infirme, lève-toi et mets-toi là au milieu. Puis il demanda aux autres, ceux qui étaient autour, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné. Profondément attristé par la dureté de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il attendit et elle fut guérie. Dans ce passage, Jésus est profondément indigné et ému. Dans un autre passage, toujours dans Marc, au chapitre 10, à partir du verset 13, passage qu'on connaît bien là encore, les gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Jésus vit qu'on empêchait les enfants de venir à lui et il s'en indigna. Encore un autre passage, cette fois-ci dans Jean, au chapitre 11, au verset 33. Donc là, le contexte, c'est la maladie et la mort de Lazare. Donc je lis à partir du verset 32 de Jean, chapitre 11. Marie parvint à l'endroit où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré, etc. Et ensuite, le verset, un peu après, Jésus pleura. Donc là aussi, Jésus est profondément indigné et ému. Alors, c'est pas forcément évident de savoir pourquoi il est indigné et ému. Est-ce que c'est la mort qui l'indigne? Est-ce que c'est l'incrédulité de ceux qui sont autour de lui? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est effectivement la mort et la souffrance de ceux qu'il aime, qui le touche et qui l'indigne. Et puis, un dernier passage sur Jésus, et donc là aussi un passage qu'on connaît bien, qui est dans Matthieu au chapitre 21, et qui là nous parle des marchands du temple. Là, il n'est pas parlé des sentiments de Jésus, mais il est dit au Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients, il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons, et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repaire de brigands. Donc là, il n'est pas parlé des émotions de Jésus, mais en tout cas, il est parlé de sa réaction, et là, c'est une réaction violente, d'accord, puisque physiquement, il s'en prend aux gens qui sont là, il renverse leur table, leur chaise, et il les chasse de la cour du temple. Dans ces quatre passages, on voit un Jésus qui est indigné. Et cette indignation, c'est une forme de colère. Il n'est pas dit comment il manifeste cette indignation, mais en tout cas, elle est visible pour ceux qui sont autour de lui. Il voit Jésus indigné, il voit Jésus en colère. Cette indignation, c'est une forme de colère que Jésus manifeste. Et il exprime une indignation, une colère face au péché et D'ailleurs, pas forcément à n'importe quel péché. À chaque fois, ce péché, c'est un obstacle entre l'amour de Dieu et les hommes qui sont devant lui. La grâce que Jésus a à donner est empêchée de se manifester par, soit par l'hypocrisie et la méchanceté finalement des pharisiens qui ne veulent pas qu'un homme soit guéri le jour du sabbat, par les disciples qui empêchent les enfants de venir, par la mort qui coupe Marie, Marthe, Lazare de son amour, par les marchands du temple qui empêchent les pèlerins de rentrer dans le temple et de s'approcher de Dieu parce qu'ils ont transformé un lieu qui devait être un lieu de prière et de relation à Dieu en un lieu de commerce. Dans ces circonstances-là, Jésus manifeste son indignation, sa colère, son émotion. On voit bien que dans au moins deux de ces passages, Jésus est non seulement indigné, mais il est dit qu'il est ému. Il va même jusqu'à pleurer dans le passage sur la mort de Lazare. On voit que l'indignation face au péché, c'est une caractéristique divine. J'en parlerai un petit peu après quand on parle de la colère de Dieu. Cette indignation, on comprend qu'elle est bonne, qu'elle manifeste le rejet du péché. Le Christ l'a manifesté et donc on comprend que nous-mêmes, on est aussi appelés à être indignés par le péché. Et parfois, quand je gronde mes enfants parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, eh bien, ça participe à manifester cette indignation, à manifester qu'une limite a été franchie. Et cette indignation, elle apprend quelque chose. Elle témoigne de quelque chose. Malgré tout, en regardant mon cœur, et on sait que, n'est-ce pas, le cœur humain est tortueux, eh bien je me rends compte que bien souvent ma colère n'est pas liée à une indignation. Elle est plus liée à une douleur, à quelque chose qui m'a fait mal. Là, l'image qui m'est venue, moi, c'est celle du dentiste. Vous savez que le système de la douleur chez l'être humain est assez sophistiqué, et la plupart du temps, on a des systèmes internes antidouleurs. C'est pour ça que si vous vous cassez une jambe ou vous coupez une main, normalement, là, pendant les premières secondes, vous n'allez rien sentir, parce que votre système antidouleur va prendre le pas et va empêcher que vous ayez trop mal. Mais il y a des endroits où ce système antidouleur, il ne fonctionne pas. Et en particulier dans les dents, parce que c'est un peu trop près du cerveau. Donc l'information « j'ai mal », elle arrive directement, elle n'a pas le temps d'être. Et je pense que vous avez tous vécu le moment où la roulette du dentiste s'approche, tout va bien, et tout d'un coup, ça touche le nerf, et là, ça monte directement au cerveau, il n'y a rien qui arrête le truc. Parfois, dans nos relations avec les autres, c'est la même chose qui se passe. Ils font quelque chose qui touche l'endroit où ça fait mal. Et tous les mécanismes qu'on a mis en place pour habituellement se protéger contre cette douleur-là, et ben ces mécanismes-là, ils n'interviennent pas et hop, ça vient faire mal directement au plus profond. Chez moi, je sais que par exemple, quand mes enfants sont méchants entre eux, parce que ça leur arrive, qu'ils se mettent un coup vachard, ils se sont fait gronder, et pour se venger, bam! Et quand je vois ça, ça me fait mal. Ça me fait mal tout de suite. Je vois la méchanceté chez mes enfants et j'ai du mal à maîtriser la souffrance que ça produit. D'autres fois, c'est quelque chose qui peut venir plus lentement. Vous savez, quand on se dispute des fois avec sa femme ou quand on a fait des trucs qui se sont répétés, 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 et puis il arrive une fois où on le fait une fois de trop et là, bam, ça explose. Et là, on voit que la douleur se traduit directement par un éclat de colère. Et là, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une indignation face au péché. Il s'agit plus simplement d'une blessure qui peut toucher notre ego, qui peut toucher notre orgueil, qui peut toucher la façon dont on se perçoit, enfin quelque chose qui touche parfois à notre identité. Mais il ne s'agit pas d'une indignation face au péché. Même si parfois on peut se donner bonne conscience en se disant oui, mais c'est quand même quelque chose de mal qui a été fait, alors je suis légitime à me mettre en colère. Et c'est là que les passages qu'on a lus peuvent nous aider. Parce que ces passages nous rappellent que nous devons être lents à la colère. Hein, les psaumes nous le rappellent souvent. Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Ces passages nous rappellent que nous aussi, nous devons être lents à la colère. Que cette colère qui apparaît comme ça, brutalement, parce qu'on a été blessé, cette colère-là n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et c'est cette colère-là dont il est question quand il est dit « Faites disparaître de vous l'irritation, la colère, ces colères qui touchent à l'ego et que nous avons besoin de maîtriser. » Cette lenteur à la colère, alors là aussi, comme je l'ai dit au tout début, la colère c'est aussi un message. Et parfois c'est une bonne chose de pouvoir exprimer, eh bien, simplement qu'on a été blessé, et l'exprimer par une colère justement, une colère qui est maîtrisée pour le coup, qui est maîtrisée et aussi qui est maîtrisée à la vitesse à laquelle elle apparaît, mais le texte nous dit aussi maîtrisée dans sa durée. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère, ici, doit être maîtrisée dans sa vitesse et dans sa durée. Parce que je peux faire passer un message sur lequel, voilà, j'ai été blessé. Et parfois, je me rends compte que quand ma femme se met en colère parce que je lui ai fait mal, je me rends compte que je lui ai fait mal. Alors que peut-être que je ne m'en serais pas rendu compte sinon. Donc, le message arrive à passer, mais on se rend bien compte là aussi que tout ce mécanisme-là est forcément fortement lié, eh bien, au péché. Au mien, au sien. Et même si nous sommes encore dans cette dynamique-là, moi, en tout cas, ces passages m'encouragent à prendre du recul par rapport à ça, et à me rendre compte que cette colère appartient à l'ancien monde. Et que dans la nouvelle création que le Seigneur met devant moi, cette colère-là n'a pas de place. J'aborde maintenant une autre colère. Toujours dans Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 2 et au verset 3, Paul nous rappelle ce que nous étions et il nous dit « Nous aussi nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, hein, ceux qui étaient rebelles à Dieu. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. » Une autre traduction dit « Nous étions des enfants de colère. » dans Romains, au chapitre 2, où là encore Paul nous parle de ce que nous étions. Là, en fait, il parle de ceux qui jugent les autres. Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ici, il est question de la colère de Dieu, une colère qui, là aussi, exprime une limite, la limite du péché, tout simplement. Et cette colère, eh bien, s'accompagne du jugement et de la condamnation. Ce jugement et cette condamnation du péché, eh bien, appartiennent à Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que parfois que notre cœur était tortueux, et parfois on peut se tromper de rôle et penser que cette colère vengeresse de Dieu, eh bien nous pouvons l'assumer. Et là aussi, il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le film Pulp Fiction. C'est pas forcément un film très, très moral, mais dans une des premières scènes, on voit deux tueurs qui arrivent dans une pièce et un de ces tueurs commence à déclamer un passage du prophète Ézéchiel. Et un passage qui parle de la colère de Dieu qui s'abat sur le méchant. Et donc il cite ce passage qui est assez long, et à la fin, une fois qu'il a terminé de lire le passage, pan, il tue tout le monde. On n'est pas le bras vengeur de Dieu. On n'est pas ceux qui sont là, qui sont appelés à juger et à condamner. C'est pas ça notre rôle. Et cette colère de Dieu appartient à Dieu seulement. Et on doit faire attention, moi aussi je dois faire attention, à pas me tromper et me draper dans finalement une sainteté qui n'est pas la mienne pour juger et condamner ceux qui sont en face de moi, ceux qui ont commis, éventuellement d'ailleurs, un péché, qui ont fait quelque chose de mal. Parce que le troisième aspect de la colère, donc on a parlé de la biologie et disons de l'aspect vraiment premier de la colère, on a parlé de l'exemple de Christ et de ce qu'il nous enseigne sur l'indignation et la colère. Une troisième dimension, c'est qu'est-ce que la colère produit chez celui qui en est la victime. Ce que produit la colère, c'est assez simple, c'est la peur. Quand je suis face à un gorille qui tape par terre et qui me manifeste le fait qu'il va venir me taper dessus, la première chose que j'ai, normalement, c'est j'ai peur. C'est fait pour ça, d'ailleurs. C'est fait pour que celui qui est en face ait peur et réfléchisse à ce qu'il est en train de faire. Et effectivement, la peur, c'est là aussi un sentiment très, très, très premier, et c'est une sensation qui est utile. Qui est utile d'abord à sa propre survie, hein. C'est comme ça qu'on échappe à bon nombre de dangers, simplement parce qu'on en a peur. C'est effectivement très utile. Vous savez, les contes pour enfants qui étaient, alors, qui sont plus tellement utilisés comme ça maintenant, mais pendant très longtemps, on racontait des histoires de monstres qui sortaient de l'eau ou qui sortaient de la forêt ou le loup, etc., pour empêcher les enfants d'aller dans des endroits qui étaient dangereux pour eux. Et il suffisait de leur faire peur, d'associer un étang, par exemple, à un monstre pour que les enfants aillent pas dedans et ils risquent pas de s'y noyer. La peur, c'est quelque chose qui est, une fois de plus, qui est utile et dont on se sert. Malgré tout, cette peur est quelque chose qui ne grandit pas très haut. Comme un tuteur qui sert à une plante à monter, ça sert au début, mais et après, le tronc doit être suffisamment fort pour tenir tout seul. La peur, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de construire votre vie dans la maturité et dans la durée. Parce que viendra un moment où vous aurez suffisamment d'assurance pour rejeter ce qui vous fait peur. Et si c'est la seule chose qui vous retenait de faire le mal, c'était la peur, un jour, ça ne suffira pas. Et là aussi, il y a un passage qui revient, vous rappelez de ce passage dans l'épître de Jean, dans la première épître de Jean, où il est parlé de la crainte. Alors, si j'arrive à retrouver mon épître de Jean, moi. Dans 1 Jean, donc dans 1 Jean, chapitre 4 et verset 18, Jean nous dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Mais l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. On n'accomplit pas ce qui est juste par la colère. Et en effet, susciter la crainte, ça n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est de nous amener à la maturité et à la stature de Christ. C'est de nous amener à une relation d'amour profonde avec lui. Et dans cet amour, eh bien, ce verset de Jean nous dit qu'il n'y a pas de place pour la crainte. Et en effet, pour revenir à l'exemple de Christ et à ce qu'on a lu, Jésus manifeste son indignation devant ceux qui lui refusent le droit de guérir pendant le sabbat. Il manifeste son indignation, mais finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va guérir celui qui est devant lui. Il manifeste son indignation devant ceux qui empêchent les enfants de venir. Mais ce qu'il va faire, finalement, c'est prendre les enfants dans ses bras. Il manifeste son indignation face à la mort et à la souffrance. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ressusciter Lazare. Il manifeste son indignation face à ceux qui empêchent les hommes de s'approcher de Dieu. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est déchirer le voile qui sépare l'homme de Dieu et permettre à tous les hommes de s'approcher de Dieu. L'indignation et la colère sont utiles. Mais ces textes nous rappellent que cette utilité est partielle, qu'elle est limitée, qu'elle doit être limitée dans le temps, dans l'intensité, que cette colère appartient à l'ancienne création, elle appartient au monde qui est régi par le péché, et dans lequel nous sommes encore. Et une fois de plus, nous sommes déjà avec le Christ, déjà avec Dieu, déjà près de lui, et nous sommes pourtant encore plongés dans ce monde. Et c'est pour ça que nous manifestons encore notre indignation face à la colère, face au péché, parfois par la colère. Nous manifestons nos blessures aussi, parfois, par la colère. Mais ce texte aussi nous encourage à nous rappeler que que cette colère est, doit être utilisée avec parcimonie, et que surtout, elle est toujours que le premier pas. Et que derrière, c'est l'amour, tout simplement, c'est la relation à Dieu que nous cherchons à construire. Et là, évidemment, je pense à mes enfants, je pense à ce que je leur transmets, à ce que j'essaie de leur apprendre. Et alors voilà, cette réflexion que j'ai essayé d'avoir avec vous, vous voyez, j'ai pas de réponse facile, simple, de recette à appliquer, mais dans la subtilité de la relation à Dieu, dans la subtilité de ce que Dieu nous demande de vivre avec ceux qui nous entourent, ces passages m'aident à trouver mon chemin, et ça m'encourage à garder à l'esprit que ce que je cherche à transmettre et à témoigner, c'est cet amour qui ne connaît pas la crainte. Que le Seigneur vous bénisse.